pas, puisque M. Greenspan, pendant le week-end, a déclaré qu'il ne voyait pas pour l'instant de raison d'augmenter les taux d'intérêt à court terme. Pourtant, augmenter les taux, c'est ce qui permettrait de soutenir une monnaie. Ben non, ça ne les gêne pas. D'ailleurs, le gouverneur de la Fed d'Atlanta a fait les mêmes déclarations hier. Donc, avec l'accord des autorités américaines, disons, le dollar, toujours en chute libre, 1,2755 pour acheter 1 euro. Je vous rappelle le CAC, il résiste bien à -0,10% à la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Guerre.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de se courir à Vincennes, 7, 4, 3, 9 et 2. Vous écoutez France Inter, il est déjà 14h04 et oui, Patrice Gélinet, c'est à vous, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des plus anciennes religions de l'histoire, le judaïsme.
Si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dieu à Moïse sur le mont Sinaï.
Ans d'histoire. Né d'une révélation dans le désert, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, le judaïsme repose sur tout un système de croyances, de lois, de prescriptions morales et de rites qui n'ont pas beaucoup changé depuis plus de 30 siècles. Malgré leur dispersion et leur exil pendant 18 siècles, malgré les persécutions dont ils ont souffert, les Juifs sont restés attachés à leur religion, au pays où elle est née et aux textes fondateurs sur lesquels elle repose, le Talmud et surtout la Torah, la Bible des Hébreux qui raconte comment, il y a très longtemps, Dieu avait demandé à Abraham de quitter la Mésopotamie pour s'installer sur la terre où est née la plus ancienne religion monothéiste du monde.
Lorsqu'il atteignit sa majorité, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai et je glorifierai ton nom. Ils se mirent en route comme des étrangers sur la terre.
Venez ! Venez !
Et les collines s'effacèrent. Lève maintenant les yeux et regarde de l'endroit où tu es. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Régine Ezeria, bonjour.
Bonjour.
C'était Abraham arrivant au pays de Canaan, hein, l'extrait d'un film de John Huston, très fidèle au texte de la Bible, qui n'est pas un livre d'histoire, vous le rappelez vous-même dans un livre sur le judaïsme, parce qu'en dehors, au fond, de ce que dit la Bible, on ne sait pas très bien si Abraham a existé, on ne sait pas grand-chose sur lui, on ne sait même pas à quelle époque il a vécu, mais c'est quand même avec lui, on peut le dire, qu'est né le judaïsme.
Oui, bien sûr, enfin, il est comme tous les personnages des origines, c'est un personnage mythique. Et ce qui est important, ce n'est pas tellement de savoir s'il a véritablement existé, ni où, ni quand, mais de savoir le sens et la portée, la dimension qu'il a prise aux yeux de ceux qui ensuite se sont reconnus dans son rôle de fondateur, de patriarche, et de celui donc qui a initié ce grand mouvement, qui a donné naissance à ce qu'on la rappellera plus tard, le judaïsme.
C'est le patriarche d'un peuple, hein, les Hébreux, puis qui descendent tous d'Abraham. On a l'impression que le judaïsme, au fond, c'est un peu la religion d'un peuple, hein, c'est ce que vous dites, et qu'elle fait finalement peu de prosélytisme. C'est un peuple élu, hein, allié à Dieu, mais qui n'est pas destiné, au fond, à être universel.
Ah, c'est toute l'ambivalence et en même temps le paradoxe de cette élection, D'abord, est-ce que tous les juifs sont des ancêtres d'Abraham? Je n'irai peut-être pas jusqu'à là, parce que, vous savez, ce sont des peuples nomades au départ, avec des alliances entre tribus, et il n'y a pas véritablement de contour très très précis au départ de ce peuple. Bon, maintenant, la vocation de ce peuple, évidemment, c'est d'être une lumière des nations, disent les textes. C'est-à-dire que ils ont à la fois un caractère particulariste très affirmé, puisqu'un certain nombre de directives, de prescriptions les concernent eux. La promesse est faite précisément pour la postérité d'Abraham, enfin, elle est destinée à la postérité d'Abraham. Mais en même temps, ils ont vocation à être une lumière des nations, c'est-à-dire à être ceux qui vont porter ce monothéisme à l'ensemble de l'humanité.
Oui.
Et donc, ils ont une vocation universelle, mais qui ne passe pas par le prosélytisme.
Alors, vous venez de l'évoquer, autre caractéristique, une religion monothéiste à l'époque, c'était même pratiquement la seule. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première échinazria?
Oh, alors là, les débats entre historiens font rage. Alors il y a différentes théories. Est-ce que le monothéisme vient de Mésopotamie? Est-ce qu'il vient d'Égypte? Une chose est certaine, c'est que les Juifs se sont fait les premiers champions du monothéisme, en tout cas d'une forme de monothéisme qui a survécu à tous les avatars de l'histoire, puisque de la souche commune sont ensuite issus le christianisme et l'islam, qui sont donc les trois monothéismes qui se revendiquent donc de cette origine abrahamique. Et la question de l'antériorité, finalement, est peut-être moins importante que son destin historique. Et de ce point de vue-là, effectivement, le judaïsme peut être qualifié de matrice du monothéisme tel que l'histoire l'a porté ensuite.
Alors le judaïsme, c'est un dieu, c'est un peuple, c'est aussi une terre, hein, vous le rappelez. Mm-hmm. Au fond, il ne se distingue pas, le judaïsme, il est inséparable du pays où il est né, c'est-à-dire en fait Israël.
Il en est inséparable.
Là, en tout cas,
il en est inséparable, et en même temps, on pourrait dire qu'il en a toujours été séparé. Ou en tout cas, il en a été très souvent séparé. Puisque ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que le patriarche Abraham lui-même ne naît pas sur cette terre. Hein. Au contraire, il faut qu'il quitte une terre, une terre idolâtre, une terre impure, pour venir
L'Irak actuel,
l'Irak actuel, pour se diriger ensuite vers ce lieu que Dieu lui indiquera, sans même lui donner la direction. Finalement, il faut qu'il soit aveuglément docile à la volonté de son Dieu, qu'il va suivre, et c'est précisément cette fidélité, cette loyauté qui feront sa force. Et donc, d'une certaine manière, Israël, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que religion et en tant que lieu, naît en dehors de lui-même. Hein. Ensuite, évidemment, les différents exils, les dispersions font que ce rapport à la terre est constamment remis en question et problématisé. Ça n'est jamais un rapport évident, comme peut-être la France évidente pour les Français, ou l'Italie pour les Italiens, ou l'Angleterre pour les Anglais. C'est-à-dire que c'est un rapport problématique, fait d'aléas, de départs, de retours, etc. Et de contestations.
Autour d'une terre, donc, quand même Israël, et surtout le lieu saint des Juifs, le temple construit par Salomon, selon le vœu de son père, David, qui voulait construire un temple pour y placer l'Arche d'Alliance.
J'habite un palais garni de bois précieux, alors que l'Arche de Dieu est gardée sous une tente. Dans ce cas, comment démontrer à Dieu notre amour infini? Je vais vous le dire. En bâtissant pour lui et à sa gloire un temple majestueux, ici, sur cette sainte colline de Sion, et dans lequel sa présence sacrée sera à jamais exposée.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le judaïsme.
Et c'était Sivan Tsourmichello, tu es mon rocher. Je suppose que c'est le rocher sur lequel a été construit le temple par Salomon, selon la volonté de David. C'est le rocher, je crois, où Abraham devait sacrifier son fils, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ce lieu du non-sacrifice. Et on parle toujours du sacrifice d'Abraham. En fait, c'est un sacrifice qui n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui est très important, précisément, sur le plan de la valeur accordée à la vie humaine, bien sûr, et du symbole. Et donc, ce temple a été construit au cœur de Jérusalem. Et ce temple devient à la fois le symbole d'une unité religieuse, territoriale et politique, dans un contexte très tourmenté. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est la concurrente de Samarie, c'est-à-dire du royaume du Nord, qui va disparaître beaucoup plus vite que le royaume du Sud. Jérusalem, c'est également, c'est la Judée, c'est une région donc de passage, et c'est le lieu de la centralité politique et religieuse. Et les deux sont difficiles à dissocier à cette époque. Hein. Le religieux n'est pas confiné dans la sphère privée, comme dans nos pays, en tout cas comme dans notre pays laïque qu'est la France. Le religieux et le politique se rejoignent. Et donc c'est à la fois le lieu où viennent trois fois par an en pèlerinage les juifs, aussi bien de Judée que de Samarie, que des lieux de la diaspora, puisqu'il existe une diaspora juive aussi. C'est les lieux dont ils viennent converger, ou donc ils se ressourcent à cette centralité religieuse et politique, où ils se reconnaissent, et finalement où ce sens du nous, du vivre ensemble, du collectif, qui donne son identité collective au peuple, se réalise et s'accomplit dans ces pèlerinages.
Lieu indissociable, là aussi, du judaïsme, un lieu saint, parce que on y trouve l'arche d'alliance, c'est-à-dire, en fait, les 10 commandements. Parce que vous le rappelez aussi, Régine Azria, le judaïsme, hein, c'est un peuple, c'est un dieu, c'est une terre, et puis c'est d'abord une règle, une loi, et pas seulement les fameux 10 commandements hein, donnés par Moïse, par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Ça va bien au-delà de « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas »,« tu ne commettras pas l'adultère ».
C'est là en fait qu'on s'aperçoit que la loi ou le décalogue et plus largement les lois juives conjuguent à la fois l'universel et le particulier. Bon, le décalogue s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Ce sont des principes qui doivent concerner tout homme, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas convoiter, de respecter ses parents. La reconnaissance de l'unicité de Dieu, puisque c'est le premier commandement, de ne pas faire d'idole, évidemment, est une aspiration à un mieux-être, parce que c'est un monothéisme éthique, qui précisément a une exigence éthique pour l'homme, qui reconnaît l'homme comme étant une valeur en soi, et donc c'est en cela que ce monothéisme est important, et donc il a une valeur universelle, mais en même temps, les 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 commandements, qui sont comptabilisés par les sages dans la Torah, et ensuite repris par le Talmud, forment une sorte de mode d'emploi sur la façon d'être juif, et concernent tous les domaines de la vie juive.
Ces lois, c'est la halakha.
Cela, évidemment, ne concerne que les juifs. Ouais. Les autres peuples ne sont pas assujettis à ces lois.
Et qui régissent leur vie quotidienne jusque dans le moindre détail. Absolument. Dans la revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, dans les moindres détails. L'alimentation, d'abord, hein, dans l'ensemble des règles, s'appelle en hébreu kasherut. Alors, ces règles sont édictées par Dieu lui-même, hein, dans la Torah. Tu ne mangeras rien de ce qui est abominable, dit Dieu. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en deux ongles et qui rumine. Donc le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, plus rare. Mais précise Dieu, pas de chameau ni de lièvre. Ils ruminent, certes, mais ils n'ont pas le sabot fourchu. Pas de porc, bien sûr. Lui, il a le sabot fourchu, mais il ne rumine pas. Vous le tiendrez pour impur, dit Dieu. Alors parmi ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger tout ce qui a nageoire et écaille. En ce qui concerne les oiseaux, la Torah adresse la liste très précise de ceux qui sont impurs, justement. Alors, c'est une liste assez étonnante. Hein. Vautours, mouettes, hiboux, chouettes, hérons, même chauves-souris. Et sont interdits aussi les animaux rampants comme les rats, les lézards, les insectes, sauf les sauterelles. Même le simple contact avec ces bêtes impures est proscrit, tout comme le sang est interdit. À tous ces interdits alimentaires, la Torah ne donne pas de justification rationnelle. Ces règles religieuses conditionnent la sainteté de la communauté. Alors, la Torah impose aussi des règles pour toutes sortes de maladies de peau, hein, notamment lèpre, furoncle, brûlure, calvitie, etc. Par exemple, on lit dans le Lévitique, si à l'endroit du furoncle se forme une boursouflure blanche, si la tache paraît faire un creux et que le poil est viré au blanc, le prêtre alors le déclare impur. Alors, la sexualité aussi est réglementée. Par exemple, quand une femme a eu des relations sexuelles avec un homme, dit la Torah, ils doivent se laver à l'eau et ils sont impurs jusqu'au soir. prohibition de l'inceste, bien sûr, mais aussi de l'homosexualité. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Ils seront mis à mort. À chaque faute, hein, donc, correspond en effet à un châtiment. Vient aussi ensuite l'organisation de la semaine juive. 6 jours, on fera son travail. Mais le 7e jour est le sabbat, un jour de repos avec réunion sacrée. Puis suit la longue liste des fêtes religieuses. Le 1er mois, le 14 du mois au crépuscule, c'est la Pâque du Seigneur. Le 15 de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain, etc. On trouve aussi des prescriptions qui paraissent assez bizarres aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé, par exemple, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » ou « Tu ne t'habilleras pas avec une étoffe hybride de laine et de lin » ou « Tu te feras des glands aux 4 coins de ton vêtement ». Et enfin, ça m'a bien amusé, « Une femme ne portera pas de vêtements d'homme, un homme ne s'habillera pas d'un manteau d'homme. Ce serait une abomination pour le Seigneur ton Dieu hein. ». Donc pas de travestis dans la Torah.
Beaucoup d'interdits, hein, effectivement, oui. Dans les mitzvot, dans les lois qui sont imposées aux Juifs. À quoi ça correspond? Parce que pour certains, on peut comprendre l'interdiction de l'inceste. Par exemple, les interdits alimentaires, on en a beaucoup parlé. Pourquoi on peut manger du bœuf mais pas du chameau parce qu'il a pas le pied fourchu? Pourquoi est-ce qu'on peut manger des... Il est interdit de manger des insectes sauf la sauterelle.
Il faudrait rentrer dans le détail pour bien comprendre. Les justifications ne sont pas données. Hein. Et donc, toutes les justifications, toutes les explications que l'on peut trouver sont données a posteriori. Elles ne sont pas données par la Torah, elles sont simplement prescrites. Et donc, il faut les respecter. C'est un signe d'allégeance, de fidélité, de foi, que de s'y conformer sans poser de questions. Mais évidemment, on ne peut pas non plus ne pas poser de questions. Un juif ne serait plus un juif s'il ne posait pas de questions. Donc, il en pose et il cherche des réponses. Et ces réponses, finalement, ce sont lesquelles? Eh bien, ce sont des réponses qui essayent de donner une cohérence, de trouver une sorte de rationalité dans le sens même de la rationalité religieuse, à ses lois. Et il s'agit, par exemple, de bien faire des distinctions entre les catégories. Hein. Il s'agit d'éviter les mélanges. Il s'agit de chercher toujours le non-mélange, la non-indifférenciation, ce qui est la principale source d'impureté. Il y a des mélanges qui sont prohibés. Et donc,
le
lait, la viande, parce qu'on a parlé des animaux interdits. Par exemple, pour ce qui concerne les oiseaux dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir que les animaux interdits sont les animaux charognards. Et donc, la consommation de la viande est une concession faite à l'humanité, mais elle n'est pas recommandée, parce que c'est déjà un symbole de violence, c'est une atteinte portée aux vivants, et donc il y a là déjà quelque chose, il y a une implication éthique implicite, mais qu'il faut aller chercher ensuite dans les textes, dans l'interprétation.
Qu'est-ce qui est chargé de faire respecter justement ces lois? Est-ce qu'on peut parler d'un clergé du judaïsme? Est-ce que les rabbins, c'est l'équivalent d'un prêtre, par exemple, chez les chrétiens?
Alors, il a existé un clergé juif jusqu'à la destruction du temple, enfin des temples, hein, et c'était donc la caste des prêtres. Donc, c'était ceux qui étaient en charge des sacrifices, de l'administration des sacrifices, du service du temple, etc. Et donc, jusqu'à la destruction des temples, il y avait un clergé juif, c'était les Cohen, c'était les Lévis, c'était ceux qui étaient issus de la tribu de Lévis, donc...
Qui n'avait pas de terre, la seule tribu qui n'avait pas de terre.
C'était la seule tribu qui n'avait pas de terre, pour bien montrer la non-inféodation de la religion à la terre, du corps. Bon. Et donc ça, c'est très important, parce que là aussi, il y a une dimension, si vous voulez, de pouvoir. Après la destruction du temple, il n'y a plus de clergé dans le sens sacerdotal du terme. Et donc, effectivement, le rabbin n'est pas un prêtre juif. Il n'y a pas de sacralisation, il n'y a pas de sacrement qui permet à un rabbin d'être considéré à l'équivalence d'un prêtre. Mais les rabbins sont quoi? Ce sont des décisionnaires, ce sont des gens qui font appliquer la loi, qui la connaissent, qui l'étudient et qui l'interprètent.
Alors vous avez évoqué la destruction du temple, la dernière, c'était en 70, hein,
après Jésus-Christ.
Et alors c'est le début, elle avait déjà commencé déjà à Babylone par exemple, hein, il y a 6 siècles avant, mais c'est le début de la grande dispersion des juifs dans le monde entier et le début d'un exil. On a même l'impression d'ailleurs qu'ils sont presque voués à l'exil. Le mot hébreu, vous le rappelez, vient de Ivri, qui veut dire celui qui passe. Et puis donc ils s'en vont dans le monde entier, les séfarades vers l'Espagne, puis ensuite l'Afrique du Nord, les askénazes vers l'Europe du Nord. Et alors il y a un exil de 18 siècles et on se demande comment cette religion a pu survivre à tant de siècles d'exil et de communautés juives qui n'avaient plus de contact les unes avec les autres, Régine Ezria.
C'est précisément, je pense, en raison, je dirais qu'il y a des causes exogènes et des causes endogènes, c'est-à-dire les causes intérieures, c'est le fait même de se conformer à ce mode de vie, à ce mode de cet art de vivre que prescrit la Torah et le Talmud, c'est-à-dire toutes ces prescriptions rituelles qui sont faites à la fois pour faire communauté, comme vous le disiez tout à l'heure, et en même temps pour différencier, pour séparer les juifs des autres peuples. C'est-à-dire il s'agit d'éviter la dilution, la dissolution de l'identité juive dans les sociétés environnantes, dans les sociétés hôtes, et donc c'est par des modes de vie, c'est par l'endogamie. Maintenant, il est évident que la pression extérieure aide aussi à se constituer en un groupe fermé, puisqu'il y a aussi le refus des juifs de l'extérieur. Et donc, si les juifs ne désirent pas se mélanger, les peuples hôtes ne désirent pas toujours non plus accueillir les juifs pour en faire des semblables à eux-mêmes. Et donc, il y a cette double pression de l'intérieur et l'extérieur qui maintiennent effectivement les communautés juives assez soudées par leur mode de vie, par leur mode d'endogamie, etc.
Alors, 18 siècles d'exil, 18 siècles aussi de persécution qui ont commencé très tôt, elles existaient déjà dans l'Antiquité, puis elles vont atteindre évidemment un point culminant au XXe siècle, et qui provoquent d'ailleurs un mouvement sioniste, sont à l'origine fin XIXe, un mouvement sioniste, qui à l'origine n'est pas religieux, le retour à Israël tel que l'imaginait Herz à la fin du XIXe siècle, c'est pas un projet religieux, c'est un projet laïque.
Non seulement c'est un projet laïque, mais c'est un projet auquel les milieux religieux ou très religieux sont hostiles, dans la mesure où pour eux le mouvement sioniste étant précisément le fait de juifs qui ont, pour beaucoup d'entre eux, sinon la totalité d'entre eux, abandonné le ghetto, en tout cas la vie juive traditionnelle, représente quelque chose d'iconoclaste, hein, puisque en fait, pour beaucoup de religieux, pour juifs religieux à cette époque-là, la période messianique, c'est-à-dire le retour, la période de la rédemption, doit être décidée, le moment de ce retour doit être décidé par Dieu lui-même. Et donc, anticiper sur la volonté divine, c'est manquer, d'une certaine manière, c'est faire preuve d'impatience. Bon. Et donc, le mouvement sioniste, au départ, est effectivement un mouvement qui est assimilable au mouvement des grands nationalismes du XIXe siècle. C'est un mouvement purement politique qui vise à donner aux juifs un refuge dans une période d'antisémitisme où les juifs ont à souffrir, justement, de persécutions, en particulier à l'est de l'Europe.
Et qui aboutit à la création de l'État d'Israël en 1948, et puis, un peu plus tard, en 1967, au retour des Juifs devant ce qui reste du Temple, c'est-à-dire le mur d'élémentation. C'était pendant la guerre des Six Jours en 1967.
C'est exactement au pied du mur des Lamentations, qui marque le lieu où s'est dressé le Temple de Salomon, qu'en fin de matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de bélier dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes solennités.
Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Nous serons les premiers à y pénétrer. Les chars avancent et ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut, sur la place.
Extraordinaire ce retour des Juifs sur ce qui restait du Temple, sur le mur des Lamentations, Régine Azria, après 18 siècles d'exil. Il n'y a pas beaucoup de pays et de peuples au monde dont l'histoire politique et religieuse soit à ce point mêlée, cette référence au passé lointain et le présent.
Mais c'est précisément ce qui a permis aux Juifs de perdurer, de persévérer, de s'entêter à durer malgré les avatars de l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le retour à Sion, est une sorte de fil conducteur de l'espérance juive. Mmh. Hein, c'est-à-dire que tout au long de leur exil,
L'an prochain à Jérusalem,
voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce rapport au territoire est tout à fait pertinent, mais en même temps toujours problématisé. Et au moment de la dispersion, c'est un rapport symbolique, un rapport mystique, un rapport religieux, mais où à aucun moment la rupture n'est consommée avec cette terre qui est à la fois celle des origines, mais en même temps celle qui doit être celle de la rédemption et de l'avenir messianique, pour beaucoup de juifs.
Oui, mais enfin aussi sur un peu un mythe, parce que l'argumentation des sionistes, c'était de dire, au fond, un peuple, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est-à-dire les Juifs. Or, il y avait un peuple, il y avait les Palestiniens, et puis il y avait deux religions. C'est un lieu saint pour trois religions, et pas seulement le judaïsme.
Bien sûr, c'est évident, et c'est toute la difficulté et toute la complexité du problème actuel que les sionistes avaient pressenti, en tout cas pour certains d'entre eux à l'époque, Ahad Ha'am, Buber et d'autres, avaient pressenti cette difficulté, savaient qu'il y avait une présence arabe et que le sionisme ne pouvait pas se construire sans tenir compte de cette présence arabe, mais il est évident que le projet politique était le plus fort, c'est-à-dire ce retour au berceau, aux origines du judaïsme, qui, dans une version historique et non pas religieuse, avait toute sa force et arrivait à rallier le sentiment des juifs qui eux-mêmes n'avaient plus la foi religieuse, peut-être, mais qui avaient malgré tout la volonté de continuer à exercer, à exister en tant que collectif, en tant que nation, sur la terre de leurs ancêtres.
Et une politique israélienne qui invoque, pour justifier par exemple la colonisation, qui invoque la Bible. Et pourtant, vous le dites à la fin de votre livre, ça m'a intrigué, Régine Azria, qu'au fond, les juifs se sont massivement détournés de leur religion aujourd'hui au XXe siècle.
C'est-à-dire qu'encore une fois, la question de où commence la religion, enfin où finit la religion, où commence la culture, est extrêmement difficile à faire. Ils se sont, pour beaucoup d'entre eux, détournés des pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de juifs ne respectent plus les règles de la cacheroute telles que vous les avez évoquées tout à l'heure. Mais il n'empêche qu'ils ont la connaissance de ces règles. Ils savent qu'elles existent, elles savent qu'elles correspondent à quelque chose. La Bible reste un texte de référence parce qu'il n'est pas uniquement prescripteur, il est aussi fondateur de culture. Il a donné lieu à une littérature, il a donné lieu à une culture, à des modes de vie auxquels les juifs, pour beaucoup d'entre eux, restent attachés, ou en tout cas auxquels ils redeviennent attachés pour certains d'entre eux. Et donc, sans être des religieux pratiquants, observants extrêmes, ils restent malgré tout très attachés à leurs origines, et d'autant plus attachés à leurs origines que cette identité juive a été contestée, a été bafouée, a été soumise à des persécutions. Et comme on le sait, plus on est contesté dans son identité et plus on a tendance à la revendiquer, quelles que soient les modalités à partir desquelles on la revendique.
Merci Régine Azria. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit livre très complet sur l'histoire du judaïsme, un livre qui vient d'être remis à jour et publié aux éditions de La Découverte dans la collection Repères. À lire également parmi les publications récentes, Les mythes fondateurs de l'antisémitisme de Carole Iancu, qui a été publié chez Privat. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le roi David de Bruce Beresford avec Richard Gere dans le rôle de David, et puis La Bible de John Huston, et puis les 10 commandements, non on n'a pas passé les 10 commandements de Cécile Denmis. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 892-68-10-33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. Puis vous me tendez aussi une revue qui est publiée, donc Le fait religieux en France, donc que vous avez écrit à la documentation française, Régine Azria. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lydune Caron et Olivier Daligo, documentation et archivina Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Dominique Costa.
Une émission de Patrice Gélinet.